Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel. Ce bonjour, matin, Guillaume. Quand l'envers du décor ne fait plus illusion.
Oui, face à ce que d'aucuns entrevoient comme une véritable intrigue policière, c'est peu de dire que le discours hier à la télévision du Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri était attendu de tous. Allait-on enfin comprendre le mystère de son retrait annoncé depuis l'Arabie Saoudite? Première constatation, précise ce matin Lorient Le Jour, l'homme s'est exprimé dans la perspective d'un retour imminent au Liban d'ici quelques jours, écartant ainsi l'hypothèse de son retrait pur et simple de la vie politique. Ensuite, aux multiples interrogations portant sur le rôle présumé de Riyad dans sa démission, Saad Hariri a eu une seule réponse, balayant toutes les accusations imputées au régime wahhabite, se disant libre au royaume. Il a répété à l'envi que sa démission était une décision personnelle qui ne lui a été prescrite par aucune tierce partie. Enfin, Saad Hariri a pris une initiative envers le président libanais Michel Aoun. Il lui a proposé de rééquilibrer la politique dite de distanciation selon les règles qu'il avait dictées avant que celle-ci ne soit enfreinte par le Hezbollah. En d'autres termes, Saad Hariri appelle le président libanais, lequel a fini par assumer ouvertement sa proximité avec le Hezbollah, à neutraliser le conflit irano-saoudien au Liban. Sauf que le problème ne se résume pas aujourd'hui au non-respect de cette politique dite de distanciation par le Hezbollah. Le problème, c'est la politique de distanciation elle-même, s'insurge ce matin l'éditorialiste de Lorient Le Jour. Et de préciser, quel message de paix un État cohabitant avec une milice armée engagée au service d'une puissance régionale, en l'occurrence l'Iran, peut-il porter? Aucun, évidemment. D'où ce que l'on nomme politique de distanciation et qui est en réalité une fuite en avant plutôt qu'une politique. Et l'éditorialiste doit en conclure, la recherche d'un nouveau contrat social capable de traiter les causes de la dépendance de toutes les composantes du peuple libanais vis-à-vis de telle ou telle puissance régionale est un travail qui doit commencer aujourd'hui. Le Liban doit sortir du pétrin dans lequel il se trouve. Or, au vu des enjeux énormes, le plus urgent serait d'éviter les fanfaronnades, ce qui est loin d'être acquis.
Et alors lui, y avait-il vraiment les moyens de fanfaronner? Quoi qu'il en soit, Mariano Rajoy s'est rendu hier à Barcelone pour la première fois depuis que la région a été mise sous tutelle.
Oui, en allant soutenir le candidat de son parti aux élections du 21 décembre prochain, le chef du gouvernement, réputé pour son attentisme légendaire, a cette fois-ci montré qu'il avait la poigne d'un leader. Et pour cause, il avait pour lui quelques arguments à faire valoir. D'une part, le soutien indéfectible de tous les États membres de l'UE. Et d'autre part, le fait que les deux tiers des Catalans, selon un sondage paru le matin même dans les colonnes d'El País, soutient aujourd'hui sa décision de convoquer des élections régionales. Sans compter que ces mêmes Catalans seraient par ailleurs de moins en moins nombreux à croire encore à l'indépendance de leur région, 28% contre 51% le mois dernier. Il faut dire, précise de son côté l'envoyé spécial du temps, que les divisions du camp sécessionniste sont par ailleurs plus évidentes que jamais. D'un côté, une sorte de mini-gouvernement fantoche, dirigé depuis la Belgique par Carles Puigdemont, lequel continue à se présenter comme président légitime, et puis de l'autre, d'anciens ministres régionaux incarcérés dans des prisons madrilènes qui n'apprécient qu'à moitié l'exil de Puigdemont et qui, affaiblis, en sont réduits à préparer leur stratégie électorale derrière des barreaux. À ce titre, d'ailleurs, on notera que l'immense manifestation organisée samedi à Barcelone, appelant à la liberté des prisonniers, a montré que le mouvement pro-indépendance n'avait en rien perdu, en revanche, de son pouvoir de mobilisation lorsqu'il s'agit de dénoncer l'autoritarisme de Madrid, preuve également que Mariano Rajoy en réalité n'a pas si le vent en poupe que cela. Si deux tiers des sondés catalans soutiennent en effet sa décision de convoquer des élections régionales, ils sont tout autant, 69%, à désapprouver la façon dont il gère la crise en Catalogne. Voilà pourquoi la clé, conseille ce matin El Mundo dans son éditorial, sera de convaincre, dit-il, la majorité silencieuse.
Et que dire à présent de Donald Trump, lequel a visiblement retrouvé ses talents de fanfaron, lui?
Oui, en voyage depuis une semaine, le président américain avait été plutôt modéré, voire discipliné. Et puis arriva le week-end, raconte l'envoyé spécial du New York Times, repéré par le Courrier International. Dans une série de tweets publiés hier depuis le Vietnam, Donald Trump a tout d'abord répondu au leader nord-coréen Kim Jong-un. « Pourquoi m'insulterait-il en me traitant de vieux alors que je ne le traiterai jamais de petit gros? J'essaie tellement d'être son ami, peut-être qu'un jour cela arrivera. » Et puis toujours hier, au lendemain de son entrevue avec Vladimir Poutine, Trump a lancé sur Twitter « Quand tous les haineux et les imbéciles se rendront-ils le compte qu'avoir de bonnes relations avec la Russie est une bonne chose. Alors la veille déjà, à bord de l'Air Force One, Trump avait confié aux journalistes d'avoir eu un bon feeling avec le président russe. Bien entendu, les deux chefs d'État ont notamment évoqué les accusations d'ingérence russe dans l'élection américaine. Or voici ce que Donald Trump a déclaré. Il m'a dit qu'il ne s'était absolument pas mêlé de notre élection. Et d'ailleurs, toutes ces accusations blessent Vladimir Poutine, qui se sent insulté, a expliqué le président américain. Évidemment, quelques heures après ces déclarations, la CIA, elle s'est empressée de confirmer ces accusations contre la Russie. De son côté, l'ex-directeur de la CIA, John Brennan, interrogé sur CNN, a aussitôt rétorqué que Donald Trump devrait avoir honte d'avoir ainsi attaqué les services de renseignement, avant d'ajouter ce que M. Trump fait vis-à-vis des Russes est soit de la naïveté, soit de l'ignorance, soit de la peur. Quant au New York Times, il s'interroge à son tour pourquoi donc le comportement de Donald Trump, qui s'était montré si prudent pendant toute la semaine, a-t-il soudainement changé ? Réponse du quotidien américain. C'est peut-être dû à l'absence de la première dame, Melania, qui exerce souvent un rôle de modératrice auprès de son mari. Or, celle-ci a quitté la délégation américaine après avoir visité la Grande Muraille et caressé la patte d'un panda au zoo de Pékin, à moins, conclut le quotidien américain, que Trump, 71 ans, soit tout simplement fatigué avec ses tournées de 12 jours en passe de s'achever.
Merci beaucoup Thomas. Alors, vous avez utilisé le mot fanfaron. On va voir si celui-ci rime avec Macron. Emmanuel Macron, 6 mois après son élection, deux voix familières des amis auditeurs. Éditeurs de voix familières de France Culture vont commenter à la fois cette élection et ses 6 premiers mois. Brice Couturier et Jean-Noël Jeannet seront nos invités aux environs de 7h40. Il est déjà 7h31 sur France Culture.